Et le journal présenté par Amélie Gerber.
Bonsoir. Les chemins de fer du Jura présentent leur stratégie 2040. Au programme, la mise en œuvre de 20 projets en 4 ans. Les CJ visent la place d'acteur majeur du transport public de l'arc jurassien. Un apprentissage attiré de la rave party à Malraix. La fête clandestine qui avait pour premier objectif de se placer à Souls a été empêchée par les habitants ainsi que par la police jurassienne. Des interventions toujours compliquées pour les autorités qui déconseillent aux citoyens de s'interposer eux-mêmes. Kylian Motet fait son retour au HC Ajoie. L'attaquant de 34 ans rejoint le club ajoulot de hockey sur glace en prêt en provenance de Fribourg-Gotteron. Retrouvez dans ce journal les impressions du nouveau joueur du HCA, Kylian Motet. Le ciel devrait se dégager de plus en plus ce soir, mais l'ambiance va se rafraîchir cette nuit par rapport à ces derniers jours. Demain, le temps sera bien ensoleillé avec des maximales atteignant les 26 degrés en plaine et 22 en altitude. Les chemins de fer du Jura établissent leurs priorités pour l'avenir. Ils ont présenté aujourd'hui à Seigne-Léger leur stratégie 2040. La démarche prévoit notamment de déployer 20 projets entre 2026 et 2030 avec l'ambition pour les CJ de devenir à terme un acteur majeur du transport public de l'arc jurassien. Tous les secteurs sont concernés avec la création d'un plan financier à moyen terme, le renforcement de la culture d'entreprise ou encore le développement des synergies avec des partenaires externes. Les CJ avaient besoin de nouvelles lignes directrices claires, selon la présidente du conseil d'administration, Géraldine Beuchat.
Les habitudes des usagers changent, la technologie change, les demandes de l'extérieur de nos commanditaires évoluent. Donc, par rapport à tout cela, nous souhaitons renforcer, avoir une vision claire effectivement à l'avenir, horizon 2040. On souhaite continuer de faire des transports de marchandises, donc par le rail, on souhaite avoir plus d'offres, la renforcer. Donc c'est bien d'avoir tout un concept général qui soit évolutif pour pouvoir déployer, évoluer et tenir notre position de prestataire d'offres de transport public dans l'arc jurassien. Oui.
La stratégie 2040 repose sur 3 axes prioritaires, le trafic régional de voyageurs, le transport de marchandises ainsi que le tourisme et les loisirs. Le document peut notamment favoriser la concrétisation d'un projet d'envergure, Arc Express, qui prévoit de relier directement par le rail de Lémont à La Chaux-de-Fonds, le directeur des chemins de fer du Jura, Jean-Frédéric Piton.
Tous ces grands projets prennent beaucoup de temps. Et on sait très bien que finalement la concurrence entre les projets au niveau suisse sont très importantes. Et aujourd'hui, la Confédération doit économiser. Elle doit économiser quasi 20 milliards sur l'ensemble de ses idées de projets d'infrastructures, d'où Arc Express fait aussi partie. Et c'est clair, c'est pas Berne qui va porter notre projet. C'est à nous de porter notre projet pour notre région, pour le développement de notre région, l'économie et les habitants. Si on n'est pas derrière, ben le projet va disparaître. Et puis nous, on va être là pour que le projet il reste là et sera réalisé un jour.
Un sujet réalisé par Nicolas Meusy. Retrouvez les entretiens complets de Jean-Frédéric Piton et Géraldine Beuchat sur notre site internet rfj.ch. Des questions et des craintes pour l'avenir après la rave party qui a dégénéré ce week-end à Malraix. Les fêtards avaient été refoulés de Souls dans le Jura vendredi soir. D'abord par des villageois et agriculteurs qui ont mis leur tracteur en travers du passage. Puis par la police jurassienne qui a obtenu leur départ du territoire cantonal. Des négociations qui se sont faites dans la discussion sans moyen de contrainte. Pour autant, la police ne recommande pas aux citoyens de s'interposer eux-mêmes pour éviter les débordements. Il faut savoir rester proportionné dans ces interventions, explique le major Éric Froidevaux, commandant de la gendarmerie au sein de la police jurassienne.
La problématique dans ce genre de situation, c'est qu'en fin de compte, les infractions qui sont commises par ces personnes, ce sont l'infraction à la loi sur l'environnement, éventuellement les constructions, du tapage nocturne, et puis on reste dans du domaine contraventionnel. Notre action, elle doit être aussi proportionnelle aux actes délictueux qu'ils commettent. C'est ça toute la difficulté. On a contacté aussi dernièrement toutes les communes en faisant passer les messages que lorsqu'on constate des colonnes de véhicules, des véhicules à plaques étrangères qui se rendent dans nos forêts, dans nos pâturages, il faut immédiatement nous appeler pour qu'on puisse intervenir le plus tôt possible. C'est vraiment dans l'anticipation qu'on doit travailler. On travaille sur les renseignements sur les réseaux sociaux, mais aussi le renseignement de la population. Il est primordial pour pouvoir nous aider à intervenir le plus vite possible, encore une fois. Disons qu'on ne recommande pas à la population, d'une manière générale, d'intervenir. La police est formée pour ça, c'est à nous de prendre nos responsabilités et d'intervenir. Mais force est de constater que l'action qui a été menée à Souls a eu son effet. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va s'approcher de nos collègues bernois pour qu'on puisse savoir quels enseignements ils tirent de cet engagement, pour qu'on puisse encore aussi renforcer nos propres dispositifs.
Dossier sur la manière dont cette rave party a été évitée à Souls à retrouver sur notre site internet. Les dégâts dus aux sangliers augurent d'une année coûteuse pour la Fédération jurassienne des chasseurs. Près de 300 000 francs de dommages ont été comptabilisés en 6 mois, c'est le double de l'année passée. Le tir de 549 sangliers lors de la dernière saison de chasse n'a pas suffi à freiner la prolifération de l'espèce. Depuis début juin, le tir de bêtes de moins de 2 ans est déjà possible 3 fois par semaine. Une chasse à l'affût bien spécifique, mais pas toujours appréciée, selon Amaury Boya, inspecteur de la faune à l'Office de l'environnement du canton du Jura.
Elle ne fait certainement pas l'unanimité au niveau des chasseurs jurassiens. Après, ça reste une chasse de spécialistes. C'est des gens qui progressent seuls, qui se posent seuls au lever du jour ou à la tombée de la nuit. Et puis, c'est une chasse surtout qui est permise par le droit fédéral parce que déjà, on la limite exclusivement à la zone agricole, donc on reste en dehors des forêts. Et puis, on cible uniquement les individus de moins de 2 ans, donc grosso modo des individus pour lesquels une limite de poids a été fixée à 50 kilos. Ça permet au canton, le canton de Jura n'est pas le seul, de pouvoir répondre justement à un début de régulation un peu plus précoce par rapport à des populations de sangliers qui se portent très bien.
On n'est pas du tout dans le contexte des battues qu'on peut voir pendant l'hiver.
Non, c'est un régime de chasse donc individuel. Il commence au premier jour ouvrable de juin. Il faut juste rappeler, la chasse n'a pas lieu tous les jours. Elle a lieu le lundi, le mercredi et le samedi. On répond à ce besoin aussi de quiétude, de limiter le dérangement. Donc jusqu'à fin septembre, dans le canton de Jura, la chasse est stricte individuel.
Des propos recueillis par Régis Cerf. Avant l'été, c'est la période des comptes 2024 pour les communes jurassiennes. 8 communes tiennent ce soir leur assemblée communale. Dans chacune d'entre elles, les comptes seront soumis au vote des citoyens, ainsi que divers crédits et règlements. Et il en ressort que l'année 2024, malgré un ralentissement observé dans l'économie, a été plutôt bonne, Jérémy Pidiard.
Oui, les 8 communes qui tiendront leur assemblée ce soir affichent des comptes bénéficiaires. La palme revient au Noirmont, qui affiche un bénéfice de plus de 3,1 millions de francs, chiffre exceptionnel, qui s'explique par des mises à jour de rentrées fiscales et les variations des années antérieures, des rentrées exceptionnelles venant aussi des entreprises ainsi que des gains immobiliers. On n'en croyait pas nos yeux, mais on les a pris, se réjouit le maire Gabriel Martinoli. Comme souvent, les Breleux affichent aussi un joli bénéfice de plus de 1,2 million, tandis que Seignelégier, Courandelin affiche également des montants positifs de plusieurs centaines de milliers de francs. Failly, près de 100 000 francs de bénéfices, s'en sort aussi très bien, tandis que Beaucourt et Saint-Bray affichent de petits bénéfices proches de l'équilibre. Fontenay aussi, mais avec plus de difficultés puisqu'il a fallu là prélever 200 000 francs dans la réserve pour y parvenir.
Et la banque Raiffeisen-Franche-Montagne fait également les comptes et elle fait encore un peu mieux que l'année dernière. La société bancaire a présenté vendredi dernier en Assemblée Générale à Seignelégier un exercice 2024 bénéficiaire à hauteur de 728 903 francs, soit un résultat meilleur de 0,5% par rapport à l'année précédente. Selon un communiqué transmis aujourd'hui, elle a notamment profité de créances hypothécaires et de fonds de la clientèle en augmentation. La banque Raiffeisen des Franche-Montagne a compté plus de 5 000 sociétaires l'an dernier. Pour les festivaliers déçus de ne pas avoir pu prendre part à la dernière soirée de Festineuche hier, le festival lance le processus de remboursement des billets après l'arrêt forcé de la manifestation. Tous les tickets journaliers et les tickets famille seront remboursés, tout comme les abonnements qui le seront proportionnellement au type de passe. Le Parlement fédéral fera un pas important ce lundi soir vers une démocratie moderne. Après le Conseil des États en décembre, le Conseil national va autoriser l'introduction de la récolte électronique de signatures pour les initiatives et les référendums. On commencera par des essais pilotes. La récolte des signatures à la main sur support papier restera possible. Les droits modernes des citoyens ont progressé ce lundi. C'est ce que pense le socialiste vaudois Jean Tchop.
Je pense qu'il y a quand même un anachronisme. Aujourd'hui, il y a tellement d'activités qui se font en ligne, y compris des récoltes de pétitions d'ailleurs, qui récoltent plusieurs dizaines de milliers de signatures. Le PS en a encore lancé une récemment sur Gaza. Ce qui est très important en revanche, c'est de sécuriser absolument le e-collecting parce qu'il faut éviter toute cyberattaque. on parle de nos droits populaires et c'est quelque chose qu'on doit protéger à tout prix.
On va voter en septembre sur l'identité électronique. Ça, c'est le bon moyen de garantir la sécurité ?
Je pense. C'est un moyen, en tout cas, de présenter un système éprouvé, de simplifier l'accès à certaines prestations. Pour le e-collecting, il faudra un système décentralisé, récolter le moins de données possible et un système sécurisé au niveau de la protection des données.
L'UDC s'oppose à la récolte électronique de signatures, estimant qu'il s'agit d'un acte militant et qu'il ne peut se faire qu'au travers des contacts physiques.
18h10, RFJ, sport.
Le HC Ajoie réussit un très joli coup sur le marché des transferts. Le club de National League de hockey sur glace a annoncé ce lundi le retour de Kylian Motet. L'attaquant de 34 ans est prêté pour la saison prochaine par Fribourg-Gotteron. Il revient dans le Jura 12 ans après un passage qui a marqué les supporters. Kylian Motet n'a pas hésité longtemps quand on lui a proposé un retour au HC Ajoie.
Déjà, c'est le premier club qui a montré de l'intérêt. Et puis pour moi, ça m'a énormément touché aussi. Et puis voilà, après... C'est aussi entre les clubs qu'ils ont décidé tout ça. Et puis, je pense que mon rôle à Fribourg, il avait changé. Pour moi, quand l'option HC Ajoie est venue sur la table, pour moi, c'était un oui. Ça me fait du bien et puis plaisir de revenir ici.
Et justement, est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque à laquelle vous avez déjà joué à Ajoie ?
Oui, énormément de souvenirs. Déjà, en termes de points, c'était ma meilleure saison dans ma carrière Ligue A, Ligue B confondu. Donc c'était des très bons souvenirs. Et puis, comme je dis, les supporters, la région, les gens qui entourent le club... donnent tout ce qu'ils ont pour ce club et puis pour moi de se sentir apprécié, aimé, c'est quelque chose que j'ai besoin aussi malgré le fait que j'étais avec Fribourg durant toutes ces années. Les supporters m'ont aussi rappelé dans cette patinoire malgré le maillot de l'équipe adverse, donc c'est tous des souvenirs qui font que je suis très content d'être là. C'est ça aussi qui a changé comparé à mon premier passage ici, c'est que maintenant j'ai de l'expérience, j'ai fait pas mal de bouts de chemin en National League et puis avec l'équipe nationale aussi un petit peu. Donc il y a de l'expérience en plus, donc je pense que ça peut que aider l'équipe.
Et donc vous n'avez pas peur de rejoindre le dernier de la classe de National League ?
Oh non, alors pas du tout. Je pense qu'effectivement ils ont fini dernier les dernières saisons, mais voilà, c'est une nouvelle saison qui va débuter. Et puis je suis aussi là pour aider l'équipe justement à gagner des matchs. Donc on va faire en sorte qu'on finisse mieux classé cette saison.
Des propos recueillis par Corentin Reiss. L'équipe de Suisse de hockey sur glace sélectionne déjà 6 joueurs en vue des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. À 8 mois du début de la compétition, les défenseurs Roman Josi et Jonas Siegenthaler sont assurés de faire partie du voyage. Ils seront accompagnés des attaquants Nico Ischier, Timo Meyer, Kevin Fiala et Nino Niederreiter sous réserve de blessures. Fabio Christen battu au sprint au Lac Noir. Le cycliste argovien a pris le deuxième rang de la deuxième étape du Tour de Suisse cet après-midi après un parcours de 177 km entre Arau et le lac fribourgeois. Il a été devancé par l'Italien Vincenzo Albalese. Le Français Romain Grégoire conserve son maillot jaune de leader. Rebecca Masarova déclasse Sofia Kenin à Berlin. La joueuse de tennis baloise a battu l'américaine 6-3, 6-2 cet après-midi en 16e de finale de tournoi WTA de la capitale allemande. Elle affrontera en 8e la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Arina Sabalenka. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée.
RFJ Sport. Les prochaines informations, 18h30, le prochain flash avec Adrien Juvet. On vous retrouvera à 19h.